I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission. Vous connaissez le principe, vous êtes dans La Grande Séance. On va parler cinéma pendant une heure avec nos amis, avec une interview de Nicole Garcia. Mais je vais d'abord vous présenter nos blogueurs, Claire Fayot pour Le Genou de Claire. Bonjour Claire.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et puis Antoine Julien, qui est maintenant, vous êtes habitué, co-présentateur de l'émission Flashback avec Antoine Cyr et mon cinématographe. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Bruno.
Nicolas Balazar, rappelez-nous comment on peut intervenir dans l'émission et ne pas hésiter à nous poser des questions.
Bonsoir, donc tout à fait, pour intervenir, c'est via les réseaux sociaux, Twitter, Séance Radio avec le hashtag La Grande Séance ou sur notre compte Facebook, Séance Radio.
Alors dans un instant, on fera les tops et flops du box-office. Comme on en a déjà parlé la semaine dernière, on parlera des démarrages mais des continuations aussi des films. Évidemment, nos amis qu'on vient de citer à l'instant, Claire et Antoine, feront leur cinéma. Dans les événements, nous parlerons du festival du film d'Arras et du festival du film de Sarlat. Et puis le débat qui est très intéressant, surtout qu'on vient de sortir Antoine, Claire du festival Lumière, et on va parler des problèmes de la restauration. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ces films de patrimoine dont beaucoup ont été présentés au festival Lumière, et de la restauration. Est-ce que ces films marchent au cinéma? Est-ce que les gens ont envie d'aller voir les films restaurés, les grands classiques? Et Dieu sait si Lumière en a présenté. Et puis, à l'occasion de la sortie de Jack Reacher 2, le blind test, j'espère qu'il sera facile. Je pense qu'il sera pas trop difficile, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, notre ami Tom Cruise. Donc il sera
54 ans.
Bah oui, bah voilà, vous êtes jeune, Claire. Mais donc voilà, ce sera un spécial Tom Cruise pour ce blind test. Dans un instant, on parle des tops et des flops.
La grande séance, le box office.
Dans un instant, on écoutera notre amie Nicole Garcia, réalisatrice du Mal de Pierre, qui sort aujourd'hui. Eh bien, son film a pas mal démarré. Alors, on a des chiffres tout frais, mais c'est simplement les séances de Paris. Pour le moment, je suis désolé, on n'a pas les séances de la province ni les séances Paris périphérie. En tout cas, le Mal de Pierre fait 2100 spectateurs à Paris intramuros, ce qui est plutôt un bon démarrage, qui peut aller, si on fait des petits calculs, jusqu'à 12 000, 15 000, pourquoi pas ce soir. Et puis après, il y aura le chiffre France. Le coefficient, pour le moment, Paris-Province, est de 2,5, mais il peut être peut-être à 3. Donc c'est un bon démarrage. Je pense que Nicole Garcia, qui était très nerveuse, vous l'entendrez tout à l'heure, sera contente. Brice Denis est derrière Mal de Pierre, puisqu'il n'est qu'à 1400 entrées, toujours Paris intramuros. Peut-être que le Paris périphérique va un peu corriger ce...
Oui, la province aussi.
La province aussi. Surtout. Mais en même temps, Brice Denis, c'est un film plutôt de l'après-midi que du soir. Donc, Mal de Pierre, c'est plutôt un film du soir. Donc, pour le moment, on va voir, on fera les comptes un peu plus tard. Mais
c'est
pour
pas
le moment,
le même public.
C'est pas le même public. Et puis, l'accueil critique de Brice Denis, ça a été super sévère. Vous êtes d'accord, mes amis?
Oui.
A été rude, hein?
Oui.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, on en discutera peut-être.
On en discutera, oui.
Jack Reacher, 1500. Paris intramuros, qui est plutôt un bon chiffre. Pour les continuations, on est à 443 000 entrées pour l'Odyssée sur la France en une semaine.
C'est pas mal, Antoine. C'est décevant quand même.
C'est décevant.
Rappelons quand même en quelques mots la sortie du film, énorme sortie, énorme promo, énorme budget, énorme ambition.
Image magnifique.
C'est correct.
Claire dit son petit mot parce qu'elle défend à mort le film. Elle a raison,
Par rapport aux attentes qui étaient, je pense, vraiment autour du film et le résultat final.
Oui, mais Antoine, les attentes, elles étaient modérées parce qu'on sentait quand même une petite réticence. Ah, oui, on sentait une réticence, même du côté de la production. Ils se demandaient est-ce que ça va marcher, parce que la critique n'a pas été unanime quand même.
Plutôt bonne, ouais.
Et il faut qu'il fasse quoi, 2 millions d'entrées?
2 millions au moins.
Alors on peut penser qu'avec les vacances de la Toussaint, si le bouche à oreille est pas trop mauvais, ça peut aller à O2.
Au 1,5 million, deux, vraiment, Sylvie Boucherey est très bon.
Ouais, donc c'est pas une super réussite. Tim Burton, il est à 1 million d'entrées, ça c'est plutôt pas mal. Le record, c'est côté français, c'est Radin. Oui, baissez pas les yeux. Hein. Radin est à 2 000.
On ne peut que s'incliner.
Ouais. Les gens ont dépensé leurs sous pour voir Radin.
Voilà.
Après, ils font peut-être des économies.
Voilà, et 2 millions d'entrées quand même, au bout de la troisième semaine. Et il peut aller au 3 avec la Toussaint, parce que les gens adorent Danny Boone. Donc voilà, on a à peu près tout dit. Je n'ai pas les chiffres de Ma vie de courgette, mais il faut inciter vraiment...
Allez-y, absolument.
Absolument. Inciter les gens à y aller voir, parce que c'est vraiment un très, très, très bon film d'animation. Dans un instant, on se retrouve avec vous, mes chers blogueurs. À tout de suite.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Honneur aux dames, Claire.
Ah oui, d'accord.
Donc... Vous allez nous parler de Disney et d'une exposition chez Art Ludique. Et aussi, j'étais pas au courant de la reprise des premiers courts-métrages des studios Disney. C'est génial.
Oui, alors je propose à tout le monde de fermer les yeux et de retomber en enfance. Oui, même vous, Bruno, vous avez forcément une image d'un dessin animé ou d'un film d'animation Disney qui vous trotte dans la tête. Eh bien,
moi, j'ai les images de Mickey, moi, en noir et blanc.
Voilà, Steamboat Willie.
Ouais,
le premier film en son avec synchronisation du son, eh bien vous pourrez retrouver votre ami Mickey dans cette exposition.
C'est génial.
Alors c'est une exposition qui a débuté le 14 octobre et qui fermera ses portes le 5 mars 2017. Elle se tient au musée Art Ludique, donc c'est Quai d'Austerlitz, je ne sais pas si vous situez.
Si, absolument.
Voilà, et c'est une exposition conçue par le musée Art Ludique en collaboration avec, alors là, Walt Disney Animation Research Library. Donc, c'est un endroit merveilleux, j'imagine, cette librairie, cette une sorte de médiathèque, sont les archives en fait de Disney. Donc, toutes les pièces que l'on voit dans cette exposition, tous ces dessins, gravures, maquettes, enfin il y a très peu de maquettes finalement, c'est beaucoup, beaucoup des concept art, des skips, sont inédites.
Mmh.
C'est somptueux. D'origine inédite, c'est somptueux. Oui, bah Walt Disney pionnier. Là, on s'intéresse vraiment à la création artistique de Walt Disney et de ses successeurs et à toutes les innovations. Donc Walt Disney, c'est le premier à avoir fait un long métrage d'animation, Blanche-Neige et les Sept Nains, 1937.
40, j'allais dire, ouais, 37.
Exactement. Steamboat Willie, donc premier son synchronisé. Des arbres et des fleurs dans les années 30. Oscar du meilleur court-métrage. Je ne vais pas vous dire toutes les révolutions qu'ils font, mais on suit ça pas à pas. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir une visite guidée, une visite semi-guidée. Donc on apprend énormément de choses. Et ça se termine jusqu'à Vaiana. Donc le prochain Disney Noël qui sort, finalement le 30 novembre.
30 novembre.
Et qui sortira en avant-première au Grand Rex mi-novembre avec la Féerie des Eaux. Donc,
on a entendu des rumeurs déjà sur Vaiana.
Écoutez, de ce que j'en ai vu dans l'exposition et bande-annonce, etc., c'est somptueux. On atteint un niveau d'animation extrêmement fluide. L'eau est magnifique parce que c'est l'histoire finalement de, je ne sais pas si on peut dire une polynésienne, mélanésienne, je n'ai pas trop situé, mais c'est une jeune fille sur une île. Et il y a les tatouages du maori, d'un guerrier maori, d'un demi-dieu maori ou autre qui s'anime. Enfin, c'est juste. Ça a l'air magnifique.
Un carton, ça, non?
Ah, je pense que ça va faire un carton.
Le prochain Disney.
Idéalement placé, en tout cas.
Voilà, idéalement placé. 30 novembre, là, c'est bon, juste avant les vacances de Noël. C'est parti pour.
Alors, il y a quand même un petit bémol sur l'exposition. C'est bon, c'est son prix déjà. Tarif plein, 16,50 €. Pour les enfants, 11 €. Voire 12, je ne sais plus. Donc, de 4 à 12 ans.
Ouais.
Et c'est pas tellement ludique ou interactif. Et c'est quand même. Le lieu est assez concentré. Donc. Voilà.
D'ailleurs, à propos des enfants, il y a un festival qui commence aujourd'hui qui s'appelle Mon premier festival, qui est génial, il faut le dire, parce que on y a pensé depuis plusieurs années. C'est des tout petits. La plupart du temps, quand on dit c'est un film à voir comme Ma vie de courgette, c'est pas pour les tout petits, quoi. C'est à partir de 5, 6 ans, 7 ans. Là, Mon premier festival, c'est pour permettre aux tout petits d'aller voir des films, non pas que à la télévision, puisque les parents, mais au cinéma, le plus tôt possible. Donc à 2-3 ans, on peut aller voir des films. Je crois que c'est 4 € la séance. Enfin, voilà. C'est intéressant. Mon premier festival, c'est jusqu'à dimanche, je crois.
Oui, je crois aussi. Et alors justement, en parlant de Boutchou qui veulent aller au cinéma pour la première fois, eh bien, je conseillerais aux parents de les emmener voir Alice Comedies. Dès l'âge de 3 ans, vous pouvez retrouver 4 films quatre trésors de Disney. Ça s'appelle Quatre trésors retrouvés de Disney. Et alors, je vous cite les titres. Le Pestacle du Far West, La Maison Hantée, Alice Chef des Pompiers, Une Journée à la Mer.
Et on peut les voir où?
Et donc, bah, ça va sortir en salle le 7 décembre 2016. Ça dure trois quarts d'heure, enfin 42 ouais. minutes pour être exact. Et tous les courts-métrages sont situés, ont été créés entre 1924 et 1926.
Et les enfants
donc
pas
avant Mickey super. Et Steamboat Willie. Donc voilà, allez-y. Version restaurée, bien sûr.
Alors vive Disney. Antoine, Julien, on sait que vous co-présentez avec Antoine Thier en flashback et puis vous avez le blog Mon Cinématographe. Vous étiez à Lumière. Et c'était bien.
Et c'était bien.
C'est toujours bien.
C'était bien à cause de Catherine Deneuve ou c'était bien tout court?
C'était bien d'abord grâce à la programmation. Je crois qu'il faut vraiment, c'est ce que j'avais dit un peu la semaine dernière, mais c'est vrai, c'est l'éclectisme de la programmation qui est assez frappant, allant de voilà d'une des pionnières du cinéma que je ne connaissais pas, Dorothy Arzner, dont j'ai découvert certains films, qui est une réalisatrice tout à fait intéressante, d'un autre côté à des films, à des pépites que Bertrand Tavernier avait largement bien vendu dans son documentaire, notamment des pépites sur Eddie Constantine.
Ouais.
J'ai donc découvert aussi Lucky Joe, où je suis un sentimental, de John Barry, qui sont quand même des films assez, assez gratinés qu'il faut avoir vus. Et puis, il y a aussi surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que toutes les séances, il faut vraiment le dire, toutes les séances sont présentées par un acteur, un cinéaste, un critique, un historien. J'en profite pour rappeler que Antoine Cyr en a présenté beaucoup, grâce à, évidemment à la sortie de son livre. Il a présenté
la
beaucoup de films
femmes.
Autour des grandes actrices hollywoodiennes. Mais ça, c'est vraiment un plus. Ce que je trouve que ça donne une espèce de dynamisme et de vivacité au festival. Et ça, je pense que c'est un souci réel de Thierry Frémaux, de vraiment de faire partager le cinéma de patrimoine au public à travers tout ses personnalités.
Ça, c'était génial. Et puis, il y a eu l'hommage à Catherine Deneuve.
L'hommage à Catherine Deneuve. Et je dois dire que j'ai été ému. Je ne m'y attendais pas, mais c'est quand même exceptionnel, malgré
c'est
tout. C'est une banalité, mais elle-même n'aime pas les honneurs. Mais elle a quand même dit sur scène qu'elle était bouleversée. Elle l'a dit elle-même. Et c'est vrai que c'est une carrière, on va pas le redire, c'est des banalités de le dire que c'est une carrière exceptionnelle, mais c'est vraiment une carrière exceptionnelle. Et elle continue, hein, je crois qu'elle vient tout juste de terminer un film avec Gérard Depardieu, elle sera à la fin de trois films l'année prochaine.
Elle s'est expliquée parce que non seulement elle a fait une masterclass, une classe de maître, on peut dire maintenant, non seulement il y a eu cette soirée hommage, mais en plus il y a une conférence de presse le lendemain matin, le samedi matin, elle a dit, c'est presque excusé, elle a dit, il y a une collision, on peut dire les deux, entre les sorties, et il y aura trois films qui sortiront en 2017, donc voilà, elle est vaillante, elle a 72 ans, mais elle est vaillante. Et c'est vrai que l'hommage était bouleversant, et on a toujours dit que Catherine Deneuve était une femme un peu froide, mais c'est pas tout à fait vrai, d'abord. Et puis, moi, ce qui m'a frappé, c'est sa vraie simplicité, sa vraie modestie, parce que c'était pas joué. Et évidemment, tout le monde voulait faire une hagiographie d'elle, y compris Thierry Frémaux, et à chaque fois, elle déjouait tous ses pièges, elle disait tout le temps, mais oui, mais enfin, moi, j'ai fait ça un petit peu au jugé, j'avais 22 ans, Jacques Demy, etc. Et puis peut-être que ça fait une œuvre ou quelque chose comme ça maintenant, mais voilà, elle a été d'une simplicité incroyable.
Et cet hommage, il faut aussi le préciser, était donc autour de beaucoup de personnalités du cinéma français, des réalisateurs.
Il y avait du beau monde.
Il y avait vraiment du beau monde.
Polanski,
Luar Milpro, Jean-Paul Rapneau, ouais. Costa Gavras et tout. Mais celui qui a sans doute fait le plus beau discours, le plus juste, le plus drôle, le plus touchant, c'est Vincent Lindon. Vraiment,
incroyable.
Il a fait vraiment quelque chose. Je crois que Deneuve elle-même était vraiment étonnée.
Vincent Lindon qui avait joué dans Belle Maman.
Oui, il a dit d'ailleurs, je suis le moins légitime. De tous les grands acteurs qui ont tourné avec Catherine Deneuve, je suis le moins légitime pour en parler. Et pourtant, c'est sans doute lui qui a trouvé les mots les plus justes.
Dans le film de Gabriel Aguillon, il jouait un type qui allait se marier.
Il tombait amoureux de sa belle-mère.
Il a trouvé des. Et moi, j'étais aussi ému quand Nathalie Dessay a chanté, c'était au début de la soirée, la chanson phare des Paroles de Cherbourg. Et j'étais assez bien placé 3 ou 4 ans devant Catherine Deneuve pour me retourner discrètement et elle pleurait vraiment. Elle était extrêmement émue pour les Parapluies de Cherbourg. Donc c'est vrai qu'elle a été très émue. Elle l'a dit le lendemain, samedi matin, à la conférence de presse. Elle a été très émue pour cette soirée, finalement, elle a assumé.
Mais il faut dire qu'il y a très peu de prix Lumière. C'est un honneur, ok, il y a les Césars, il y a les Oscars même, ouais. Mais il y a très peu de récipiendaires du prix Lumière.
Oui. Et qui dans l'ordre, il y a Clint Eastwood,
Miloš Forman, Depardieu,
Ken Loach.
Et Martin Scorsese.
C'est vrai qu'il y a une ambiance de cinéphilie qui doit, à mon avis, émouvoir beaucoup de monde. Enfin, nous, en tant que spectateurs, on est émus, mais je pense que les personnes qui reçoivent ce prix sont...
Donc voilà, vive le Festival Lumière. On se retrouve dans un instant pour l'interview.
La grande séance, l'interview.
Donc, j'ai rencontré Nicole Garcia pour la sortie de son Mal de Pierre. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est tiré d'un beau roman qui a eu du succès d'ailleurs de Milena Agus. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a attiré dans ce roman.
Oui, j'ai lu ce livre, Mal de Pierre, de Milena Agus, donc une auteure italienne, sarde même, venant de Cagliari, la capitale de la ville la plus importante de la Sardaigne. Et dès que j'ai lu le livre, je sentais qu'il y avait quelque chose, pour moi dans ce livre. Alors je ne sais pas si c'est dans les mots qu'elle emploie, que le personnage emploie, quelque chose de ce destin de femme, qui me faisait comprendre qu'il y avait là-dedans quelque chose que je cherchais, que je n'avais pas écrit moi-même comme un scénario original. C'était peut-être quelqu'un qui veut quelque chose, une femme qui veut quelque chose que tout le monde lui refuse. Et elle crie si fort cette chose, ce désir qu'elle a et qui est dans le gisement même du livre. Elle l'appelle, elle veut la chose principale, c'est-à-dire quelque chose de charnel, de sacré en même temps, d'amoureux, de rencontrer ça avec un homme. Et que c'est ça qui pour elle est, elle mourrait, elle le dit d'ailleurs, elle s'adresse directement à Dieu, sans intermédiaire, et elle dit donnez-moi la chose principale. C'est incroyable d'appeler ça une chose. Donnez-moi la chose principale ou laissez-moi mourir. Et donc, dans ce désir même, elle fait peur à tout le monde. Elle fait peur, elle apporte le scandale et sa mère lui dit ben voilà, elle fait une sorte de viol social, la vend à un ouvrier agricole espagnol qui est là. Elle dit si tu ne l'épouses pas, je t'interne à Marseille. Et c'est là que l'histoire commence. Elle va aller avec cet homme qu'elle n'aime pas, vivre à la Ciotat. Mais elle a, ce qui fait le titre du livre, cette maladie de la pierre, le mal de pierre, des pierres dans les reins, des calculs, dirait-on maintenant. Et il faut la renvoyer en Suisse, au fin fond des Alpes suisses, la soigner. Et là, dans cette cure, elle va rencontrer... celui qu'elle attendait, cet homme, qui est un jeune lieutenant, qui rentre d'Indochine, blessé, gravement blessé. Et c'est d'ailleurs sur cette blessure qu'ils vont se rencontrer. Enfin, ils ont la même, quoi. Elle, on l'a dit folle, lui, il est blessé. Et ils vont se trouver. Elle a envie d'être... elle a envie d'aimer, mais au-delà d'aimer, elle veut être lue, elle veut être vue par un homme. Elle veut un homme qui lui ouvre le savoir, qui lui ouvre la culture. Et lui, il a lu beaucoup. Il joue au piano. Il cristallise. Son amour se cristallise autour de lui. Il est en fait tout ce qu'elle attendait. Et on la voit. Mais son mari, elle est mariée. Son mari vient la voir. Et là. C'est le secret du film.
C'est le secret du film, ça donne très envie en tout cas. Elle, c'est Marion Cotillard. Lui, c'est Louis Garrel. José, l'ouvrier agricole, c'est Alex Brandemühl, de trois beaux acteurs. Brigitte Rouen qui joue la mère. Est-ce que c'est difficile de convaincre Marion Cotillard, qui est une star, qui joue aux États-Unis, qui joue partout, est-ce que ça a été difficile de la convaincre de jouer le rôle de Gabrielle?
Non, je l'ai attendu, mais je crois que dès que je lui ai donné le scénario, même j'en avais parlé il y a longtemps, quand j'avais lu le livre, j'ai lu un livre, il y a vraiment un rôle pour vous, à l'époque, vous voyez, pour vous, parce que j'ai eu l'intuition qu'elle était l'actrice, qu'elle n'est pas le personnage, mais qu'aucune actrice ne pourrait jouer ce rôle comme elle, et c'était vrai, quoi. Les gens sont éblouis par elle quand ils voient le film, même des gens qui étaient plus ou moins, qui l'aimaient plus ou moins, enfin, qu'elle touchait plus ou moins, là, sont bouleversés par elle, parce qu'elle est... vraiment extraordinaire dans ce personnage. Je peux dire que on a très bien travaillé ensemble. Elle a été très engagée dans ce rôle. Elle a même donné à ce rôle même des choses qu'elle très enfouie en elle-même. Elle le dit maintenant qu'elle avait jamais découverte même d'elle-même, et qui sont parce que parce que c'est la rencontre entre c'est rare comme ça arrive, la rencontre entre une actrice et un personnage.
C'est extraordinaire ce que vous dites, parce que vous dites bien au départ, elle n'était pas le personnage, mais c'est une telle grande actrice qu'elle fait croire à ce personnage qui n'est pas que vous ne voyez pas au début la jouer, quoi.
Absolument, quand on voit le personnage, on dit elle est plus folle, plus farouche, plus sauvage, plus brutale. Non, parce qu'elle a un désir d'extase, on sent qu'elle a des manques dans sa vie tellement forts, on sent un manque d'amour qu'elle a eu avec sa mère, enfin, autant de choses qui font qu'elle désire, et peut-être même parce qu'on le lui refuse, elle le crie très très haut. Voilà. Marion, voilà, c'est pas ça. Elle n'est pas le personnage, mais en tout cas, elle avait en elle tout ça parce qu'elle a su les trouver et cette fureur, cet amour, tous ces affects et on a su ensemble les raconter. Et je crois que c'est pour ça que je me suis attachée à ce personnage incroyablement, mais dès le moment de l'écriture. Et si elle touche maintenant tellement les gens, je pense que c'est le personnage, c'est l'écriture, c'est Marion.
Vous êtes bien, vous êtes heureux sur un plateau, vous connaissez les plateaux depuis longtemps, vous êtes comédienne, vous avez commencé jeune, et quand vous retrouvez comme ça, devant les comédiens, derrière la caméra, réalisatrice, c'est votre 8e film, comment vous vous sentez ?
Bah, le plateau, il faut aimer ça, sinon on le ferait pas, hein, parce que des moments, il y a des jours de grâce dans le cinéma, puis des jours beaucoup plus difficiles, donc il faut être très habité, animé par ce qu'on veut raconter, et arriver à l'arracher au réel, c'est pas facile.
C'est quoi les jours plus difficiles?
Puis des jours où ça peut venir de plein de choses, parce qu'il y a des principes de réalité, on rêve des choses, puis on rencontre la réalité, une mauvaise météo, des acteurs qui parfois ne jouent pas dans la strate où on pense qu'il faut que le rôle soit joué, donc il faut on peut se tromper, donc il faut changer de son fusil d'épaule, comme on dit, leur indiquer, trouver une autre voie pour arriver à ce qu'on cherche, contrairement à ce qu'on dit de Picasso qui disait je ne cherche pas, je trouve. Moi je dirais je ne trouve pas, je cherche jusqu'à ce que je trouve.
Vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait en tant que comédienne, d'une part vous aide à diriger des acteurs, et d'autre part maintenant que vous êtes réalisatrice, quand vous jouez, parce que vous continuez à être comédienne, ça aussi ça vous aide aussi en tant qu'actrice.
Oui, je pense que mon atout le plus grand quand je suis metteur en scène, c'est vrai que c'est d'avoir été, enfin, d'être actrice, de venir de là. C'est ça qui me permet de parler le mieux aux acteurs, de les servir. Enfin, je les sers au mieux. Et c'est vrai que quand je joue aussi maintenant, je me suis rendu compte que je me suis délivré d'un poids d'angoisse et quand je joue, moi je me sens plus libre. Mais souvent quand on a deux fronts dans la vie, il y en a un qu'on libère des inhibitions et des angoisses.
Vous êtes toujours sur Séance Radio dans la grande séance et on se fait une petite pause musicale. Thank you.
Voilà, c'est un extrait de la bande originale de Deepwater, un film qui est sorti la semaine dernière. Et Nicolas, vous nous rappelez comment on peut intervenir dans l'émission ?
Pour intervenir et commenter l'émission ou poser des questions à nos blogueurs ou à Bruno, ça se fait sur Twitter, Séance Radio, avec le hashtag La Grande Séance, ou sur notre page Facebook.
On continue à écouter Nicole Garcia, et pour cette deuxième partie de l'interview, je vais demander, mais qu'est-ce qui lui donnait l'énergie de continuer, parce que ça, elle a une sacrée bout de carrière, à la fois comme comédienne, comme réalisatrice, au théâtre, à la télévision.
Comme n'importe quel métier, comme quelque chose que... métier, est-ce que... Oui, c'est un métier, c'est le mien, je... Alors peut-être que oui, effectivement, j'ai... Il y a des histoires que j'ai envie de raconter, j'ai des projets, je crois que pour vivre bien, il faut que je sais pas si, j'ai besoin d'avoir cette espèce de vie surnuméraire qui est la fiction, l'imaginaire, j'ai besoin de quitter la réalité, ça a été ça qui m'a précipité ou qui m'a fait avoir cette vocation, disons, on appelle ça comme ça, quand j'avais 13 ans, d'être actrice. Après, j'ai transformé ça avec la mise en scène, mais je crois que c'est toujours là, de suivre toujours la voie d'un ailleurs que donne la fiction, l'imagination, raconter des histoires, délaisser, voilà, quitter le réel pour y revenir. On est bien obligé, mais j'aurais pas imaginé pour moi une vie où je n'aurais pas, disons, quitté. Oui, tordre le cou au réel, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'était un souffle qui peut, ça m'a sauvé. Je pense que ça m'a sauvé de quoi, je ne sais pas, mais ça m'a sauvé d'avoir cette... c'était plus fort que moi, j'ai pas, c'est comme, c'était au-delà d'une contingence, c'était vraiment une nécessité de vivre à côté du réel, dans cette voie parallèle qui ne se rencontre jamais et qui est cet imaginaire, et de faire des allers-retours entre les deux, le monde de l'imaginaire et le réel.
Il a fallu du courage quand vous étiez jeune pour quitter votre enfance, pour partir à Paris et pour affronter le travail, le conservatoire, tout ça. Et il fallait, vous étiez toute jeune, il fallait y aller, quoi. Vous vous souvenez de cette période où vous battiez ?
Ah oui, très bien, mais je m'en souviens. Et bien sûr, c'était, je le porte en moi, c'était hier. Mais c'était justement, c'est pas du courage, c'est comme quand on sent qu'il n'y a pas d'autre choix pour soi, que c'est la seule voie qui va vous rendre la vie acceptable, que la vie belle, la vie qu'on cherche à avoir. C'est une sorte de génie qu'on a un peu quand on est adolescent, sans savoir du tout, sans pas savoir grand chose, que je sortais d'un milieu où la culture n'était pas quelque chose de prioritaire chez mes parents, encore que mon père aimait bien l'opéra, comme ça allait bien, mais c'était tout, quoi. Je les ai jamais vus lire, mes parents, enfin c'était, mais voilà, alors d'où ça vient, c'est vraiment entre soi et soi. Quelque chose qui vous dit, il faut que tu ailles par là. C'est par là et par là seulement que tu vas risquer ta chance.
Mais en même temps, c'est un métier super difficile. Vos enfants, Pierre, Frédéric, ils sont dans ce métier. C'est un métier super difficile, c'est un métier de saltimbanque, c'est un métier qui n'est pas sûr. Vous en avez travaillé toute votre vie. C'est pas de la chance, c'est parce que vous avez réussi à faire ce métier toute votre vie. Et vraiment, actrice, réalisatrice, vous avez pas peur, par exemple? Maintenant, ça y est, Pierre, il est lancé, mais... Vous êtes d'accord que c'est un métier difficile ?
Mais très, très, très difficile, bien sûr. J'ai vu autour de moi, je vois des gens, il y a tellement de gens de plus en plus, il me semble maintenant, qui veulent être acteurs, tellement peu d'élus, comme mes garçons, mes deux fils ont voulu être dans ce métier, sûrement, voilà, entraînés par moi, sûrement, parce que c'est vrai que c'est un... Il y a des dynasties chez les menuisiers, chez les avocats, chez les bouchers, chez les acteurs aussi, il y a quelque chose que les enfants captent de la vie qu'on peut avoir et qui les attire, et ils ont des dons pour ça. Pierre, par exemple, c'est un acteur qui joue en ce moment avec Fanny Ardant dans Croque-Monsieur, à Hôtel de la Michaudière. Je le trouve très doué. Et Frédéric, qui est l'aîné, est un metteur en scène de théâtre, d'opéra, qui a le CDN d'Angers. Et je le trouve très doué tous les deux. Mais c'est vrai que j'ai une inquiétude, parce que comme vous le dites si justement, c'est vrai que c'est un métier de contrat, un contrat qui s'arrête. C'est quand même pas la fameuse intermittence dont on parle. Et j'aurais sûrement préféré qu'il soit davantage à l'abri, comme dans d'autres professions on peut l'être. Mais c'est comme ça. Voilà, ils ont choisi ça et je leur souhaite bonne chance.
Le Mal de Pierre sort aujourd'hui. J'imagine que vous avez le trac, comme quand vous aviez le trac toute jeune, quoi. C'est toujours le même trac ?
Oui, le même, ça c'est une constance, le trac. C'est le trac avant qu'on rentre sur scène, les jours des générales. C'est le trac comme aujourd'hui, comme quand un film sort aujourd'hui. C'est bah oui, on fait tout ça, on travaille et c'est long. On élabore quelque chose, une œuvre et voilà. Et là, et voilà, maintenant on la présente aux autres, quoi. On s'en délivre en même temps, mais on l'offre pour ceux à qui on l'a fait. Et donc voilà, il faut qu'il y ait appel du désir. Mais je suis contente, hein, je suis contente que le film sorte. Il était temps d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce film. Je crois,
et puis il y a eu Cannes en plus.
Oui, il y a eu Cannes. Et Cannes, c'est particulier, Cannes, parce que c'est une grande violence. Et puis on allume les hauts fourneaux. Et puis l'été passe. Et maintenant on rallume tout. Donc c'est comme un double allumage de la fusée. Et j'espère que celle-là va aller haut.
Dernière question. Après cette longue épreuve entre guillemets et en même temps pleine de plaisir, vous êtes du genre à faire une pause ou à tout de suite avoir une idée derrière la tête pour le prochain film? J'ai remarqué, on le sait, que c'est votre 8e film, que les 7 premiers, il y avait toujours 4 ans d'écart, qu'entre un beau dimanche et Mal de pierre, il y a 2 ans. Ça veut dire qu'on peut penser à un film dans 2 ans?
Mais oui, je presse le rythme. Je dois avoir une horloge en moi qui doit dire maintenant il faut presser le rythme. Mais oui, j'ai déjà un projet qui est presque écrit et j'ai l'idée d'un autre. Je voudrais accéder un jour à faire une comédie. C'est pas le prochain, mais je voudrais quand même. Alors j'y pense, à faire une comédie.
Une comédie?
Oui. Ce serait drôle, hein. Non, mais mes amis disent que je suis drôle dans la vie. Ils me disent, pourquoi toi qui es si drôle, tu fais toujours des films romanesques comme ça, avec des personnages qui ont des tourmentes existentielles, des extases, des amours, drôle, être vraiment drôle, faire rire. Par exemple, dans Mal de pierre, il y a un seul moment où les gens rient, et je suis toujours contente. Alors je me dis, il faut quand même que, et moi-même quand j'étais en scène, par exemple, sur la balançoire, je faisais rire les gens, et c'est un plaisir auquel j'ai envie de retrouver. Mais est-ce que je vais en être capable? Je sais pas. J'ai dit toujours que j'écris avec la veine noire du marbre, alors je sais pas si... Je vais voir, je vais m'y essayer.
Voilà, elle va s'y essayer, on lui souhaite de la réussite. En tout cas, Mal de pierre qui sort aujourd'hui a bien démarré, donc on verra les chiffres pour la France, mais on aura les résultats que demain. Mais le film a bien démarré, tant mieux pour le film et tant mieux pour Nicole Garcia. Dans un instant, on se retrouve avec la séquence événements.
Les événements cinéma sont dans la grande séance.
Donc, dans nos événements, nous avons le Festival du film d'Arras, du 4 au 16 novembre, c'est la 17e édition, comme chaque année, avant-première, focus sur le cinéma d'Europe centrale et orientale, découverte européenne, et puis regard sur tout le cinéma du monde. Il y aura une rétrospective sur la guerre d'Espagne et les films d'évasion, une programmation pour le jeune public, des ciné-concerts, des journées professionnelles, les Arras Days, et puis la compétition, évidemment, une compétition européenne, où il y aura 9 longs-métrages inédits qui viendront de Géorgie, de Norvège, de Bulgarie, de République tchèque, de Hongrie, d'Allemagne, de Croatie, de Slovénie et des Pays-Bas. Et c'est Jean-Pierre Améris, très bon réalisateur, qui va présider le jury de cette année et qui va décerner l'Atlas d'or. Et puis, Stéphane Brisé sera l'invité d'honneur de cette édition. Il rencontrera le public. On verra ses films, mais en général, c'est plutôt de bons films, les films de Stéphane Brisé. Et il présentera son dernier film, Une vie, qu'il a vu ici. Pas encore.
Pas encore, mais je vous en avais parlé lors de ma dernière venue, Claire puisque Payot, c'est une adaptation du roman de Maupassant.
Alors,
tout à fait.
Moi, je peux vous dire que j'ai rencontré 4, 5 personnes qui disent que c'est le film de l'année, que c'est un super, super grand film. Donc, vous voyez, c'est pas mal, hein. Ça, on a hâte de le voir, hein.
Bon. Donc, on a hâte de voir, en tout cas, Judith Chemla,
quelle actrice. Oui. C'est une actrice qui n'est pas encore tout à fait reconnue et qui est une immense actrice. Et puis, il y a aussi le festival du film de Sarlat, du 8 au 12 novembre, où il fait toujours un foie de canard, donc c'est juste un jeu de mots. Donc vous savez que depuis 1991, c'est cette petite ville qui est très très belle, qui est moyenâgeuse, où a vécu Montaigne, accueille un festival. C'est un super beau festival où il y a énormément d'équipes de films. Et surtout, le thème, c'est que les sections cinéma des lycées du coin et même de toute la France rencontrent des réalisateurs. Ils fabriquent des petits films dans les rues d'Arras. Et voilà, c'est vraiment un festival passionnant. Il y aura beaucoup d'invités présents parce que, en général, à Sarlat, les équipes de films viennent. Et donc, il y a une très belle programmation. Il y aura José Garcia, il y aura Michel Bougenat, Nicolas Duvauchel. Et parmi les films, on verra Orpheline de Arnaud Despalières, La Vallée des Loups de Jean-Patrick Bénès, La Confession de Nicolas Boukrieff avec notre ami Romain Duris.
Oui, qui est le nouvelle adaptation de Léon Morin-Prêtre
voilà,
qu'avait fait Jean-Pierre Melville.
Léon Morin-Prêtre avec Belmondo. Patient de Grand Corps Malade, dont j'ai vu des extraits à la journée distributeur en octobre et qui a l'air assez fort comme film.
Oui.
Et vous avez entendu
en fait,
j'ai vu des extraits aussi.
Au show web.
C'est l'histoire de Grand Corps Malade. L'adaptation de son propre livre.
Et de sa rééducation suite à son accident.
Absolument. Et ça a l'air assez passionnant. Noce, à fond, Nicolas Benamou, Les Derniers Parisiens, La Fine Équipe, et puis Le Cœur en Braille, le dernier film du réalisateur, Michel Bougenat, qui est acteur et qui est réalisateur. Et puis un film, vous l'avez peut-être vu à Angoulême, non, Il a déjà tes yeux, de Lucien Jean-Baptiste. Qui a eu une très bonne presse à Angoulême puisque c'est l'histoire d'un couple de blacks qui adopte un enfant et l'enfant est un petit blanc donc ça fait un peu des remous comiques dans la famille et on parle beaucoup de ce film, enfin c'est une des comédies qui est attendue pour cette fin d'année. Dans un instant, notre débat.
La grande séance, le débat.
Donc le débat il est simple, on sort tous ou presque du Festival Lumière, c'est un festival où on parle beaucoup de restauration des films, puisqu'évidemment pour pouvoir voir des films, y compris du début de l'histoire du cinéma, et Thierry Frémaux adore nous les montrer, puisqu'à chaque fois il nous fait le coup de montrer les premiers films des frères Lumière, la sortie des usines Lumière avec les différentes versions, c'est passionnant, tout ça c'est quand même en 1895.
Oui, alors juste à ce propos, il faut
Antoine,
juste expliquer rapidement aux auditeurs
Julien,
que chaque personnalité qui reçoit le prix Lumière chaque année doit réaliser la sortie de l'usine
un
Lumière,
remake
du film évidemment célèbre des frères Lumière, que le réalisateur, donc en l'occurrence cette année, Catherine Deneuve, qui a réalisé son premier film,
rue du premier film.
Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours passionnant, parce qu'on a vu Tarantino, Almodovar et tous les autres, Ken Loach, prendre une caméra et refaire la sortie des Usines Lumière, donc qui date de 1895. Et Frémaux nous montre parmi les films, d'ailleurs il y a eu toute une série de DVD de fête, les premiers films d'histoire du cinéma, et la fameuse bande des Cremos, je crois, qui sont des espèces d'acrobates complètement fous. Donc ce sont des films évidemment en noir et blanc. Alors la restauration, moi j'ai eu l'idée de ce débat parce que je savais ce que c'était la restauration, mais j'ai entendu qu'il y avait non pas une polémique, mais une discussion sur jusqu'où faut-il restaurer les films. Alors j'explique, c'est que les films on peut les restaurer, on travaille en numérique, et on arrive à des films super bien restaurés, mais tellement bien restaurés parfois, qu'on se pose la question, est-ce que c'était pas peut-être mieux ou différent de ce que avait voulu le réalisateur au moment où son film est sorti? Donc il y a même des... Alors quand c'est un film récent, parce qu'il y a des films restaurés qui ont 20 ans, et que le réalisateur est là, il est vivant, tout va bien, mais quand c'est des plus vieux films, on fait des enquêtes carrément pour savoir exactement à l'époque quel étalonnage le réalisateur avait voulu, et on va interroger le fils, le petit-fils, etc., pour savoir voilà, comment était la texture du film à l'époque. Et j'ai même entendu quelqu'un qui travaille à Canal+, qui travaille sur la restauration des films, dire que parfois on laisse même, on peut laisser des griffures sur la pellicule ou un espèce de grain qu'avait sans doute voulu le réalisateur. Alors, vous étiez à Lumière, Antoine Julien, qu'est-ce que vous pensez de la restauration des films?
Ce qui est intéressant dans un festival comme le Festival Lumière, c'est que l'on voit en effet des versions restaurées numérisées, et certaines sont absolument magnifiques. Alors certaines aussi sont supervisées par le réalisateur lui-même. Je pense notamment à Jerry Schatzberg, par exemple, le réalisateur américain qui était à Lumière, qui vient d'ailleurs chaque année, qui présentait la version restaurée de Panic at Needle Park, qui, à mon avis, était tout à fait dans le ton de l'époque de 1971. On y retrouve la même crudité, le même style documentaire, donc ça c'est une restauration très fidèle. À Lumière aussi, on peut voir de vieilles copies 35 mm, parce qu'évidemment tous les films ne sont pas restaurés. Donc on se rend compte justement à quel point la numérisation des œuvres peut être une chance, évidemment, une chance de conservation, mais peut-être aussi un problème de trop grande perfection, c'est vrai. Et c'est frappant à quel point on est maintenant habitué au numérique. Et revoir aujourd'hui des copies 35, on se rend compte à quel point la texture n'est pas la même, la matière n'est pas la même, et même la manière de regarder un film n'est pas tout à fait la même. Les scratchs, le son, ce genre de choses qui disparaissent. Et c'est vrai que j'imagine que pour toutes les techniciens qui se chargent des restaurations, et encore plus quand les auteurs ou les équipes ont disparu, c'est presque un problème d'éthique à ce niveau-là. C'est presque un problème d'éthique.
C'est drôle parce qu'en vous entendant, j'ai l'impression que c'est comme l'histoire du DVD et des vinyles un petit peu. C'est-à-dire que on est arrivé à un son presque parfait avec le DVD, mais maintenant on redécouvre. Alors ma métaphore est un peu hasardeuse, mais on redécouvre les vinyles, ils se vendent et on entend les scratchs. Et moi j'ai retrouver des vieux disques et un vieil électrophone, et c'est assez sympathique en fait d'entendre les disques dans leur jus tels qu'on les écoutait à l'époque. Et c'est voilà, c'est alors c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vrai que on est content que les films soient restaurés, mais si l'image n'est plus tout à fait la même, c'est étrange. Qu'est-ce que vous pensez, Claire?
Moi je suis pour la restauration.
Quoi qu'elle donne.
Martin Scorsese est pour, donc je suis pour. Non, c'est vrai qu'à la lumière, on peut voir les ciné-concerts et c'est absolument génial de voir des films des années 1920. Je me souviens même d'un film où il n'y avait pas le son, un film français où il n'y avait aucun son, aucune musique. C'était vraiment une expérience particulière. Et voilà, on n'aurait pas restauré ça, ben, je trouve que voilà, il manquerait quelque chose au patrimoine. Et puis, pour être honnête, la restauration, moi, ça ne me gêne pas. Si c'est entre guillemets parfait, je préfère ça qu'un film tout piqué. Enfin, maintenant, ça n'existe plus. On nous présente pas des mauvaises bobines, mais bon. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose. Par exemple, l'an dernier, à Lumière, ils ont passé un dessin animé Disney. Je parle beaucoup de Disney en ce moment. C'était Le Monde de Nemo. Et le fait de le voir en 35 mm avec le petit court-métrage avant, ça crée une émotion supplémentaire dans la salle. Donc, moi, je suis pour, de toute façon, qu'on voit des films restaurés. C'est important, ça permet aussi de parler aussi. Souvent, les séances avec les films restaurés, il y a une présentation avant. On a vraiment l'impression d'apprendre quelque chose sur le cinéma. C'est, j'allais dire, un devoir de mémoire, quoi. Et les restaurations sont superbes. Moi, j'ai souvenir d'une restauration du Guépard. Alors là, pour le coup, l'image, les couleurs, c'était
non, mais c'est une deuxième vie. Enfin, une deuxième, une troisième, une dixième, une quinzième vie pour un film. Enfin, en tout cas, c'est vraiment...
Je ne pourrais pas reprocher que c'était trop parfait, puisque...
Oui, non, mais c'est... Et puis, c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on voit mieux presque les films aujourd'hui que les spectateurs eux-mêmes avaient pu le découvrir à l'époque. Mais moi, ça n'est pas quelque chose qui me gêne. Au départ, j'étais un petit peu réfractaire parce que j'étais tellement habitué aux belles versions restaurées 35. Mais il y a vraiment un problème qui se pose, c'est la conservation des films. Voilà, c'est un problème mondial que beaucoup de grands réalisateurs, vous parlez de Martin Scorsese, mais d'autres se posent. Et ça, c'est un. Et je trouve que le Festival Lumière en est la parfaite illustration.
Est-ce qu'à Lumière, ils donnent encore des morceaux de pellicule aux personnes qui font les cérémonies?
Ah, j'en avais reçu, mais pas cette année.
Ah, pas cette année.
Non, c'est dommage. Non, à l'époque,
je trouve que c'est très symbolique comme geste de nous donner.
On avait un petit bout de pellicule.
Voilà.
Des films de
voilà,
Tarantino.
Voilà, des films de Tarantino ou de.
Alors, on parle de la restauration, ça c'est une chose, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sociétés de cinéma qui aimeraient distribuer ces films. Et notamment, il y a Pathé qui a fait un très beau cinéma, Avenue des Gobelins, le cinéma des Fauvettes, qui est magnifique, qui est tout en bois avec des fauteuils de velours rouge, qui est un endroit magnifique, mais qui n'est pas surpeuplé. Alors, le problème, c'est que il y a la restauration des films... On a envie de les voir dans des grands écrans. Mais est-ce que le public suit, Antoine Julien?
Le public, en effet, sur les Fauvettes, on a eu dans le premier numéro de Flashback Jean-Pierre Lavoignat qui est chargé de la programmation, qui a dû constater, comme nous, que le public n'était pas tout à fait au rendez-vous. Mais le cas des Fauvettes est un cas particulier puisque c'est une sorte de multiplex du classique avec des conditions de projection magnifiques, mais un prix malheureusement
vraiment
conséquent. On paye 12 euros pour voir une version restaurée.
C'est le prix de la place complète.
Donc c'est sans doute un frein. En revanche, là où le classique se porte très bien, c'est évidemment dans les cinémathèques. Vous allez à la Cinémathèque française, l'Institut Lumière à Lyon en dehors du Festival Lumière, parce que pas oublier que l'Institut Lumière, c'est toute l'année, hein, toute l'année des projections, des rétrospectives, et puis des salles plus historiques comme le Quartier Latin. Vous allez un samedi après-midi au Champeau, par exemple, pour un vieux film de Julien Duvivier. Je peux vous assurer que ce sera complet.
Vous avez le MacMahon aussi.
Le MacMahon, enfin, on peut. Y a Paris est la ville la plus dotée de cinéma.
Oui, mais là, vous parlez quand même de petites niches, mais là, le vrai débat, c'est que. Aujourd'hui, on peut regarder sur son écran de télévision, il y a des fois des très grands écrans, des vieux films, et il y a d'ailleurs des chaînes de télévision qui passent des vieux films. Est-ce que les gens sont prêts à se déplacer pour payer plus de 10 euros pour aller voir un beau film restauré en salle?
Alors honnêtement, 10 euros ou 12, non, pour moi. Mais aller dans une séance au tarif normal pour un... Payer le même prix pour un film classique ou un film récent, j'allais dire, pour moi, là, je suis d'accord pour le faire, mais il faut qu'il y ait un petit plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une petite présentation, il faut qu'il y ait un débat après. Sinon, c'est vrai que bon, c'est difficile. C'est difficile, sinon, effectivement, on peut prendre un Blu-ray et s'installer chez soi.
Mais alors, Julien. C'est certain que ces versions restaurées, pour les distributeurs, c'est une difficulté. Tout départ rose, bien sûr. Et j'ai pu en parler avec Gérald Duchossois, que j'ai rencontré donc pour Flashback Spécial Lumière la semaine dernière. Gérald Duchossois, qui est le cofondateur du marché du film classique, hein, qui est un événement unique au monde, qui regroupe une vingtaine de pays, nombreux accrédités qui sont vraiment là,
et qui
comme
sont,
le marché
et qui
du film à Cannes, mais sauf que c'est le classique.
Et qui était la lumière.
Et qui
va dans d'autres festivals.
Et non, qui est vraiment... uniquement pendant quelques jours pendant le Festival Lumière. Et justement, on a discuté assez longuement ensemble des difficultés que pouvait rencontrer le cinéma classique aujourd'hui.
C'est une difficulté effectivement pour les distributeurs de patrimoine de trouver de la place dans les distributeurs salles, hein, parce qu'après on a aussi des distributeurs DVD Blu-ray qui sont très très actifs, hein, et puis on a maintenant toute la chaîne de VOD ainsi que les chaînes de télévision qui elles aussi ont du mal à projeter des films de patrimoine, bien que on sait que des films de patrimoine qui ont 40, 50 ans, des comédies populaires, des grands films d'aventure ont des chiffres d'audience assez élevés, voire très élevés parfois. Et pour les distributeurs salles, donc il y a effectivement un grand travail de fond qui est accompli par eux, et vraiment on le salue parce qu'ils nous permettent de revoir ces films de patrimoine en salle. Et effectivement, il faut trouver de la place, donc convaincre les exploitants, ceux qui possèdent donc ces salles partout en France, où il y a un maillage vraiment très très élevé, très soutenu par des associations comme l'AFCAE, qui soutient la RAESE, et puis la DRC aussi, donc une agence régionale qui vraiment fait un travail de font pour soutenir ces salles, et les distributeurs sont effectivement confrontés souvent à des difficultés, mais font un très beau travail pour convaincre ces salles de projeter ces films.
Alors en définitive, je vous pose la question, Antoine Julien, Claire Fayot, le débat n'est pas clos, mais est-ce que vous pensez que, en dehors des cinémas que vous avez cités, est-ce que vous pensez que, voilà, c'est un marché qui peut fonctionner, le marché du film classique? Antoine?
Ah oui, et là je pense qu'on est dans sa meilleure période, parce que
pourquoi?
Parce que on parle de la salle bien sûr, mais il faut aussi parler évidemment de la VOD, oui. des très très belles éditions Blu-ray, DVD qui sortent pratiquement chaque semaine. Il faut quand même rappeler que les ressorties, alors je vais être un peu parisien dans mon discours, mais c'est malheureusement la réalité. Mais les ressorties films du patrimoine Paris, c'est un à deux par semaine quand même. Donc il y a une vraie actualité, une vraie aussi une, je pense une quand même malgré tout une demande du public, hein, et si Lumière est un tel succès, même si c'est un événement un peu à part, et ben c'est que vraiment il y a une demande du public très clairement pour revoir ces films dans les meilleures conditions, mais ce qui n'empêche pas en effet de voir de magnifiques éditions Blu-ray chez soi dans des conditions optimales.
Oui, en plus, on n'a pas parlé tellement des films restaurés dans les festivals, à part Lyon Lumière, mais même dans mon premier festival, qui est un festival pour les enfants, il va y avoir, enfin, il y a des restaurations, notamment, là, je parlais tout à l'heure de Alice Comedies. Eh bien, si ça n'avait pas été restauré, il ne pourrait pas le proposer dans ce festival. Il va passer demain et après-demain, je crois, au festival. Donc... pour les générations futures, moi je trouve vraiment que c'est l'idée de transmission, de garder un patrimoine, et c'est important. Donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment un marché pour la restauration, effectivement.
Alors on peut poser la question, on la pose à travers Twitter, est-ce que vous êtes prêt à payer plein tarif pour voir un vieux film en salle? Appelez-nous, envoyez-nous des tweets.
C'est sur Twitter directement.
Nicolas, alors, qu'est-ce que vous avez comme réponse?
Alors pour l'instant, il y a 67% de nos auditeurs qui seraient prêts à payer plein tarif pour voir un ancien film en salle.
Voilà. Bon,
nous avons des auditeurs assez
cinéphiles. Voilà une bonne nouvelle.
Passion Ciné Club.
Les sondages restent 24 heures en ligne sur Twitter, donc n'hésitez pas à partager après l'émission.
Ah, c'est intéressant, ça prouve que ce sont des cinéphiles qui nous écoutent. Ben, on se retrouve dans un instant pour la séquence Blind Test.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le Blind Test dans votre émission 100% cinéma.
Alors, le Blind Test, on va essayer de que ce soit pas trop difficile. C'est un spécial Tom Cruise,
ouais.
Donc j'ai envie de dire que c'est pour les jeunes, même s'il a quel âge? 54 ans. Alors, on va y aller doucement. Le premier.
Cocktail.
Ouais, c'est bien. Je cache ma feuille, hein, parce que...
c'est la musique.
C'est la musique. Non, Claire Fayot ne triche jamais. Cocktail de
non,
Roger Donaldson. Allez, moi j'ajoute toujours une petite difficulté. Quelle année?
De quoi? Cocktail
88,
ouais.
Bravo, très fort. Le deuxième.
Eyes Wide Shut.
Super.
Bravo. Stanley Kubrick.
Je me souvenais pas du tout que c'était cette musique.
Moi non plus.
Quelle année?
99.
Bravo. Ils sont
Kubrick.
Balèzes, hein. Le troisième.
Oh, c'est pas Horizon Lointain, ça?
C'est
absolument.
Vrai que ça fait un peu...
Ouais.
On voit les chevaucher, là.
Ouais.
Ça me donne des complexes, moi, de jouer à ce blind test. Ron Howard.
92.
Il a regardé ma feuille tout à l'heure, Antoine Julien, ou quoi? Non. Impossible,
c'est
ça.
C'est vrai qu'on
aucune
se pose
triche.
Des questions.
Sur tout le monde, aucune triche.
Le quatrième. J'ai jamais entendu parler de ce film.
C'est pas le film de science-fiction... de Joseph Kosinski,
ah,
là.
Ah ouais, t'as raison, je pense.
C'était le film de
Oblivion,
de science-fiction,
hein.
Absolument.
Ouais, ouais,
Oblivion, ah bah voilà, une très belle musique.
Joseph Kosinski, moi j'ai jamais vu, c'était quoi ce film?
C'est un film de science-fiction, très beau,
sur une
très
planète,
très beau visuellement.
Ouais.
Sur une planète.
Il y a Morgan Freeman qui
va pas spoiler.
Je vois que ça n'a pas marqué les mémoires, et c'était de 2013.
Compliqué.
Là... C'est le premier qui dégaine, là, parce que ça va être... Attention, c'est le 5.
Top Gun.
Bravo,
bien
Claire.
Sûr. Qui, alors, 85, je dirais. Il a 30 ans, maintenant, Top Gun.
Non, 86, je dirais, moi.
86,
ouais. 30 ans.
Voilà.
On avait tous de raison.
Absolument. Le 6.
Alors là, c'est Entretien avec un vampire.
Absolument.
Ah, super musique.
En quelle année?
Oh là là, je dirais 98, un truc comme
non,
ça. Non, plus avant.
94.
Bravo,
oh là là.
Antoine. Le 7.
Je savais pas qu'il a joué dans Les Dents de la Mer. C'est un peu cette musique. Non.
À la guerre des mondes,
hein. Si,
Spielberg.
La guerre des mondes de Spielberg en
2005.
Bravo, bien joué. J'espère que nos auditeurs sont aussi forts. Le 8e.
Mission impossible.
Bravo.
Lequel?
Tous.
Ouais.
5.
Ouais, ça je sais pas si c'est le premier, c'est 1996.
Non, bah, c'est le premier.
S'il n'y a pas les chants russes, c'est que c'est pas le 4.
Ouais.
C'est tout ce qu'on peut dire.
Le numéro 9.
Ça, c'est la couleur de l'argent, ça. Non?
J'aurais dit Risky Business.
Ouais, c'est
ah,
Risky
ouais.
Business, bravo.
Ah, c'était l'un de ses premiers, hein, les années 80.
Et c'était Claire Fayot, était une spécialiste de Tom Cruise,
Tom Cruise,
1983. Et le 10e?
Ah, Collatéral. Hein.
Ah non, j'aurais
non
dit le remake là, du film espagnol.
Vanilla Sky.
Sky, hein.
Ouais, bravo, bravo, bien joué, de Cameron Crowe. En
2001. Déjà? Oh là là.
Exactement, de bien. Très bon pour les dates, pas mal pour les titres.
Voilà,
bon, comme on a un petit peu d'avance, avant de conclure, je vais simplement vous demander à chacun, Claire Fayot et Antoine Junier, vos coups de cœur et ce qu'il faut aller voir en salle en ce moment. Ah.
Ouh là là.
Alors, coup
Antoine,
de cœur, vous en avez un peu parlé pendant le box-office, c'est ma vie de courgette de Claude Barras, qui est un film... Moi, j'ai eu la larme à l'œil, je dis franchement, je trouve que c'est un film qui est destiné aux grands-enfants. sur un sujet qui aurait pu être glauque et terrible, parce que ce que ça raconte, c'est quand même... voilà, c'est en animation image par image. Hein,
c'est incroyable, c'est
scénario de Céline Sciamma.
Il faut une journée pour faire une minute, un truc comme ça. Ouais. C'est ça.
Et c'est un travail. J'espère vraiment que le film va rencontrer le public, parce que là, ça
on n'a pas les chiffres encore.
C'est à la fois proche. Ça peut parler aux enfants, ça parle aux adultes. C'est très émouvant, c'est très drôle aussi.
On peut quand même. Vous dites c'est dur, mais c'est aussi de la résilience. Donc on peut y aller à partir de 7 à 77 ans, 7-8 ans.
Oui.
Le film est dur, mais il est plein d'optimisme.
Oui, complètement.
C'est une jolie histoire. Surtout qu'on voit pas de choses horribles. C'est plutôt raconté.
C'est raconté.
C'est des enfants qui sont dans une maison pour enfants. On peut dire le pitch du film. Courgette, c'est un petit garçon. Sa maman vient de mourir. Son père n'est plus là. Et il va être mis dans une maison. C'est pas une maison de correction, mais c'est une maison pour enfants un peu difficile. Et en fait, au début, les gamins autour de lui vont pas tous être très sympas. Et puis finalement, ils vont l'adopter, il va s'apercevoir que la vie est pas si moche que ça, il va tomber amoureux, et voilà, et c'est une belle histoire. Et voilà, je peux pas tout raconter, quoi qu'il y ait pas de suspense, mais voilà, ça va très bien se terminer, il va s'apercevoir qu'il peut tomber amoureux, qu'il peut être heureux, et que les gens peuvent être solidaires. Vous avez un coup de cœur?
Oui, moi je vais rester dans l'émotion. En fait, j'ai eu pas mal de coups de cœur ces temps-ci, mais là, il y a quand même, moi, Daniel Black qui sort... Et j'ai beaucoup pleuré en voyant le film. C'est un film qui montre l'absurdité du système social. Donc Daniel Black, qui est cardiaque, qui ne peut plus travailler et qui n'arrive pas à avoir les indemnités chômage, ni à avoir le statut de travailleur malade.
Il est coincé. Il faut dire, je vous interromps, qu'en Angleterre, et c'est ce que dénonce Ken Loach, il y a des sociétés privées qui sont déléguées par le gouvernement pour tester. Donc il est cardiaque, mais on lui fait des tests qui n'ont rien à voir avec sa maladie cardiaque. Voilà. Donc d'ailleurs il se moque d'eux. Et puis donc vous êtes apte à travailler et en même temps il peut pas toucher. Et bon, il n'a pas le droit de travailler puisqu'il a vraiment des problèmes. Mais en même temps il peut pas toucher de pension. Donc il se retrouve dans une position kafkaïenne, absurde. Et il va rencontrer une jeune femme
qui est aussi en grande difficulté financière. Mais il y a de l'humour, il y a un beau message et il y a de la solidarité dans ce film. Et vraiment je le conseille à tous.
C'est une palme d'or qui était méritée, Antoine Julien?
Pas pour moi. Peux parler d'une palme d'or qui serait méritée, en tout cas d'un film, ce sont ce jury du Festival de Cannes, on va pas y revenir, mais c'est la catastrophe. Et ils ont oublié un film qui est en train, au vu de la presse qu'il est en train d'avoir, va avoir un accueil triomphal. C'est le film de Park Chan-wook, qui sort début novembre, qui s'appelle Mademoiselle. Qui avait été accueilli à Cannes.
Vous dites qu'il y a un bon buzz.
Ah oui. Très fort. C'est un film formidable, une mise en scène, mais au cordeau, d'une maîtrise. C'est un film à la fois sensuel, pervers, assez diabolique dans sa construction. C'est un scénario.
Vous pourriez nous dire un tout petit
peu. Très retors. C'est assez compliqué. Ça se passe au 19e siècle, si je me trompe pas. C'est une manipulation, en fait, d'un couple qui veut s'approprier, un couple d'escrocs qui veut s'approprier l'argent d'une veuve. Et il n'y a pas beaucoup de violence, qui est très rare chez Park Chan-wook. C'est un film, par contre, avec un assez très 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 sensuel,
et
extrêmement érotique. Bien construit, très très maîtrisé, avec une mise en scène toujours aussi flamboyante. C'est un film vraiment que je recommande.
Alors c'est bien d'en parler, parce que moi j'en entends pas trop parler, et c'est un de mes films préférés de Cannes, quoi. Et puis il y a Loving qui va sortir aussi.
Plus tard, je crois. L'année prochaine. Ouais.
L'année prochaine, au début 2017, et ça, c'était un bon film. En tout cas, merci à tous. On reste sur les presque 70%, hein, Nicolas, sur l'histoire de ceux qui sont prêts à payer une place entière. Ça me fait super plaisir. Une place entière pour. On est à presque
60% maintenant.
60%.
Enfin, un petit peu baissé.
Ah, je vais voter, ça va remonter.
Il faut aller voir les films en salle. Donc, on va se retrouver.
Et les ciné-concerts aussi, n'oubliez pas les ciné-concerts de films anciens, c'est top.
Et on les trouve où, les ciné-concerts de films anciens?
Dans certains festivals ou même certains cinémas organisent ça avec un pianiste en live et c'est parti.
Merci Claire Fayot, merci Antoine Julien, merci à tous. Je vous rappelle qu'on se retrouve évidemment le mois prochain, au début du mois, le premier mercredi du mois de novembre. Et en attendant, vous nous rappelez, Nicolas, comment on peut intervenir dans cette émission.
Pour voir toute l'actualité de la radio et de l'actualité du cinéma, c'est sur Séance Radio, sur Twitter, tout simplement.
À bientôt et au mois de novembre.
C'était La Grande Séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.